Bonsoir, bonsoir à tous. Donc merci à tous ceux qui sont connectés, merci à tous ceux qui sont présents dans notre centre de formation au quartier Milan. C'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui pour donner mon expérience sur les effets des drogues. Il y a déjà eu Madame Calixte, notre sœur, qui a bien présenté le tableau, et puis critère aussi au niveau du Cameroun, la législation et puis les structures qui sont en place pour prendre en charge les patients avec dépendance. Moi, ce que je voulais dire, c'est un atelier parents-enfants. Et on a l'impression que quand on parle de drogue, c'est plus les enfants qui sont concernés, avec les parents qui sont là pour, qui doivent vigiler. Mais je pense que c'est dans les deux sens. Il y a des enfants qui voient aussi leurs parents utiliser la drogue. Ça, c'est très important parce que c'est un peu un enseignement que eux, ils vont avoir aussi pour leur futur, de savoir que quelque chose qui est consommé de façon normale à la maison, c'est pour eux un critère de normalité. Donc c'est pour ça que moi je vois que on fait un atelier, ça doit être un atelier bidirectionnel, où les enfants aussi peuvent poser des questions aux parents. Mais papa, qu'est-ce que tu es en train de fumer? Papa, qu'est-ce que tu es en train de boire? Parce que des fois, les parents le font devant les enfants qui ne savent pas. Et après, au fur et à mesure, peut-être l'enfant en grandissant se rend compte que ce qu'il voyait faire, c'était l'utilisation peut-être de stupéfiants ou d'autres choses. Et les enfants, des fois, eux-mêmes, vont intervenir et secourir leurs parents qui sont en danger, notamment en appelant les secours. Ou ça arrive souvent que les enfants appellent le centre 15, appellent le centre d'urgence, quoi, pour que les parents soient secourus. Donc, quand je parle donc dans ma vision d'atelier, parents-enfants, il ne faut pas donc oublier que ça ne regarde pas seulement les jeunes. Il n'y a pas que des dealers devant les écoles, il y a des dealers devant les bureaux, il y a des dealers dans leur maison, il y a des dealers sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé que la mondialisation a apporté technologie, la mondialisation a apporté plein de choses, mais aussi a apporté plein d'autres choses qui ne sont pas forcément positives. Il faut donc savoir qu'avec les moyens technologiques actuels, certains, et avec aussi Internet, certains réussissent à créer des laboratoires de production de stupéfiants dans leur maison, certains le font dans leur jardin. Donc c'est pour dire qu'avec cet échange d'informations et de mondialisation, vous trouvez tout sur les réseaux, mais certains peuvent devenir des dealers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Voilà, donc c'est un fléau qui regarde tout le monde entier. Il faut savoir que quand on se drogue, ça a un coût. C'est un coût pour la société, c'est un coût pour la personne elle-même. Donc il faut aussi trouver des moyens, de l'argent pour se droguer. Ça veut dire que quelqu'un qui a 10 francs et qui met 9 francs pour acheter la drogue va donc ne plus avoir de quoi vivre, de quoi survivre. Donc c'est important aussi sur le plan socio-économique, savoir qu'il y a ce type de problématique. Donc moi je devrais parler des effets des drogues. Principalement, on ne peut pas parler de drogue sans parler du cerveau, parce que comme notre sœur Calixte l'a précisé, c'est là où tout se joue, c'est là où les choses au niveau des médiateurs, ces substances chimiques qui un peu contrôlent l'activité du cerveau, où les drogues vont agir et vont probablement créer non seulement des effets toxiques, mais aussi des circuits de dépendance qui vont faire que la personne aura toujours envie pour avoir, on va dire, un peu ce craving ou cette cette extase, cette sensation pratiquement de se sentir peut-être supérieur, ou bien cette sensation d'être déconnecté du, on va dire, du planer. Voilà. Donc, il faut savoir que depuis le début, je pense que du monde, il existe des plantes qui étaient hallucinogènes, qui sont bien décrits dans les sociétés où les personnes prenaient des herbes et puis les fumaient ou les mangeaient et puis disaient qu'ils avaient des visions. Voilà. Donc, c'est un peu pour aussi dire que c'est quelque chose qui est présent, parce qu'on a des, même dans la nature, des substances déjà qui créent ce type de dépendance. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la partie synthétique, mais il y a aussi la partie naturelle. Donc, en nature, vous pouvez trouver certaines choses que pour vous sont des drogues. Même si vous les consommez, c'est des drogues par leur effet, par le mécanisme de dépendance. Voilà. Donc, moi, je vais donc parler, je vais partager mon écran. Et je vais, lorsqu'il est parti, je vais partager mon écran. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Très bien, docteur.
Voilà, très bien. Donc, je pense que ma présentation ne va pas être très longue. Je pense que c'est aussi des questions, c'est aussi le moment de débattre, d'échanger. Je souhaiterais, s'il y a des questions dans la salle, il faudrait qu'un téléphone soit connecté sur le lien, parce qu'on a du mal à entendre la personne qui parle. Donc, ce serait bien qu'un téléphone fasse un peu de micro dans la salle pour qu'on puisse mieux entendre les questions, parce que des fois on entend juste en fond sonore, si vous n'avez pas bien sûr un micro sans fil. Donc, quand on parle de drogue, on va parler bien sûr d'addiction, c'est ce que je disais. Cette drogue va provoquer au niveau cérébral ce mécanisme qui va faire que le cerveau va vouloir encore cette drogue-là. Donc, on va créer un lien entre drogue et le cerveau avec ces mécanismes, ces neuromédiateurs, ces circuits qui vont faire que la personne aura toujours envie envie d'y aller. Il y a une dépendance qui peut être aussi.
On ne le voit pas encore ton écran.
Ah ouais, pas mon écran.
Ok. Il faut le placer sur ta présentation. Je pense que tu as placé ta page.
Oui, je suis sur ma présentation. C'est juste que j'ai, comme c'est le partage, j'ai dû cliquer sur. J'ai cliqué sur quelque chose qui n'avait pas. Vous ne voyez pas ma présentation. C'est que je retrouve avec les 1500 fenêtres que j'ai ouvertes.
Effectivement, on a la fenêtre Google là.
Vous avez la fenêtre Google, c'est parfait. On aime bien Google aussi. Hein. Mais il faut que je mette. Est-ce qu'elle est partie? Fenêtre. Voilà. Comment ça devrait être bon? Là, vous voyez ma diapo?
Oui,
c'est
bon. Okay. Très bien, voilà. Donc, j'étais sur ma. C'est aussi la première diapo où je montrais ce cerveau qui est lié avec les substances, donc drogue, addiction. Il faut savoir qu'il y a, quand le corps manque de ces substances, il y a cette sensation où le corps a envie d'avoir, parce que physiquement, le corps en ressent. Donc, vous avez des symptômes, hein, des personnes qui sont en sueur, ils sont en train de trembler parce qu'ils manquent leur dose de cette substance-là dont le corps a besoin. Donc il y a cette dépendance physique, mais aussi il y a cette dépendance psychique, parce que, comme je disais, il y a des taux d'hormones du plaisir thérapie et qui font que psychiquement cette personne recherche cette dose-là. Et puis il faut savoir que le corps, c'est comme une machine qui s'adapte aux molécules qu'on utilise. Ça veut dire que si vous commencez avec un millilitre de quelque chose, que ce soit un médicament ou toute autre substance, votre corps s'adapte. Il y a des mécanismes, on va dire, pharmacocinétiques internes qui font que l'organisme, pour avoir le même effet, va vous demander d'augmenter la dose. Donc c'est pour ça que vous voyez des fois, les personnes vont vous dire, que ce soit même une bière, alors j'ai commencé à boire une bière, je me sens bien. Après, il va dire, mais avec une bière, je n'ai plus cette sensation de liberté, j'ai besoin d'en prendre deux, j'ai besoin d'en prendre trois, j'ai besoin d'en prendre quatre. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des personnes qui sont des grands buveurs et qui arrivent à tolérer parce que leur organisme a été tellement habitué qu'il fait que le foie, qui est notre presque éponge de toutes les substances qu'on prend, arrive à éliminer plusieurs choses. Il faut savoir que, par exemple, l'alcool, physiologiquement, au niveau de notre organisme, l'estomac des femmes n'a pas une enzyme qui catabolise l'alcool déjà quand on le boit. Donc ça veut dire que si on va prendre une comparaison entre des femmes et des hommes qui vont boire de l'alcool, la femme va s'enivrer plus facilement qu'un homme parce que déjà physiologiquement, au niveau de l'estomac, il n'a pas cette, les femmes n'ont pas ces enzymes qui vont faire que l'alcool va être déjà catabolisé déjà depuis l'estomac. Donc physiologiquement, vous voyez qu'on a déjà des substances. Il y a des populations, par exemple, qui ne l'ont pas carrément. Comme par exemple, vous avez vu en Inde, en Amérique, comment quand on a ramené l'eau qu'on appelait l'eau de vie, que les Européens ont ramené, et les Indiens, comme ils n'avaient pas l'habitude, et dans leur corps, il n'y a pas ces mécanismes de désintoxication physiologique, font que ben, eux, ils s'enivraient plus rapidement et ça permettait pratiquement à ceux qui étaient arrivés de prendre possession du terrain et puis eux, ils étaient devenus dépendants à ces substances-là. Donc, après, donc, comme je disais, donc, l'addiction, il y a ces mécanismes de dépendance. Les chercheurs essaient justement de trouver quels sont ces mécanismes parce qu'il peut y avoir des molécules, il peut y avoir des traitements qu'on va mettre qui vont essayer de bloquer ces neuromédiateurs, de bloquer cette dépendance hormonale, on va dire, à l'intérieur du corps pour permettre de bloquer, de casser cette chaîne qui a de dépendance entre la drogue et la personne elle-même. Donc je pense que la définition de drogue a été déjà faite. Donc comme je dis, c'est un produit qui est susceptible d'entraîner une dépendance. Il y a bien sûr des facteurs qui vont faire que la personne qui se drogue aura des effets collatéraux ou pas, aura certaines manifestations physiques ou pas. Voilà. Donc, une liste rapide, il y a quelqu'un qui l'a fait tout à l'heure. Il faut comprendre que l'alcool, c'est une drogue. Donc, il y a des drogues licites et il y a des drogues illicites. Voilà. Donc, il y a des drogues qui sont autorisées. Et il y a des drogues qui sont autorisées. Par exemple, avant, on autorisait le tabac parce que la nicotine à l'intérieur était autorisée partout, même dans les lieux publics, dans les bureaux. Au fur et à mesure qu'on a vu la toxicité que ça avait, sur même les non-fumeurs, ça a été banni. Donc c'est passé d'une drogue qui est encore licite, mais qui est interdite dans certains milieux. Si vous voyez dans cette liste, il y a le protoxyde d'azote. Si vous voyez, par exemple, il y a des personnes que vous allez voir qui fument des ballons, parce que justement, cette sensation de fumer le protoxyde d'azote dans des ballons, ça fait que la personne se sent avec toujours cette sensation d'inébriété et qui va faire qu'il se sent un peu plané, comme on dit. Donc, j'ai mis des médicaments aussi. Comme vous voyez, il y a le tramadol, le fameux tramol. C'est pour ça que même au niveau du Cameroun, le tramadol est maintenant les pharmacies ne doivent plus délivrer ce type de médicaments sans ordonnance. Bien sûr, dans chaque système, dans chaque circuit, on sait bien qu'il y a un circuit officiel et puis il y a des gens qui vont nous vendre du tramadol, du tramol hors des circuits habituels. Mais maintenant, c'est de la pharmacie au Cameroun. Les pharmacies ont été bien sensibilisées. Le tramadol doit être donné sur prescription médicale. On ne peut pas arriver à dire, excusez-moi du tramadol, on vous le donne normalement. C'est interdit, même au Cameroun, les pharmaciens sont bien sensibles à ça. Ici en France aussi, même le tramadol a été retiré des ordonnances simples. Il faut une typologie d'ordonnance particulière qu'on appelle des ordonnances sécurisées. parce que les personnes après pourraient prendre une ordonnance, aller dans une pharmacie, après aller dans une autre. Donc, il y a maintenant ces ordonnances qui vont faire qu'on va compter le nombre de boîtes que la personne va prendre sur certaines durées pour être sûr que peut-être il ne va pas prendre ses boîtes et ou trop consommer. Donc, si quelqu'un en consomme trop, il n'a plus droit. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met ces ordonnances. Et il faut qu'on dise aussi que la morphine ou est aussi utilisée par certains pour comme drogue. Donc, comme je disais, il y a des drogues légales et illicites, il y a des drogues naturelles, comme je parlais de ces substances, des champignons, des herbes qui vont faire même le papavero. Le papavero aussi est une plante duquel vous allez prendre l'opium, par exemple. Donc, il y a des drogues de synthèse qui sont faites pour l'avoir. Il y a des drogues qui sont dues, qui vont dire qu'ils vont faire un très grand craving, qui vont être vraiment très liés à une grande dépendance avec l'organisme. Donc, principalement, les drogues sur le cerveau, sur les nerfs, sur le comportement. Donc, la consommation d'une substance psychoactive, c'est pour ça qu'on parle de drogue, ça va agir sur le cerveau, peut provoquer une altération du fonctionnement de notre cerveau. Pas seulement du cerveau, mais aussi des nerfs. Donc, si vous faites un scanner à une personne qui a bu de l'alcool, par exemple, ou bien qui a utilisé de la cocaïne, qui a utilisé de l'héroïne, qui a fumé le banga, vous allez trouver, au fil du temps, le scanner cérébral montre les anomalies qui, pratiquement, sont ces réductions des cellules grises. Voilà, comme on dit classiquement, le cerveau sera petit. Et quand le cerveau sera petit, cette personne perd en fonction neurologique. Ça veut dire que vous allez peut-être trouver qu'elle divague, vous allez trouver qu'elle ne sait plus où elle est, vous allez trouver qu'elle n'arrive plus à faire aller aux toilettes tout seul, aller faire ses courses. Donc, il y a des altérations neurologiques qui vont faire que ces personnes n'arrivent plus à la longue à faire leur activité normale. Bien sûr, dans le moment où ils ont consommé, vous pouvez leur parler, mais ils sont en train de planer. Donc, on dit qu'ils ne sont pas là, ils peuvent avoir des hallucinations. Ils peuvent faire des choses qu'ils n'imaginaient pas de faire. On a eu au Cameroun récemment un qui a dit qu'il avait bu de l'alcool et puis il est rentré chez lui prendre un couteau et on sait bien ce qui s'est passé parce qu'il a dit qu'il était sous l'emprise de l'alcool et puis il s'est réveillé, il avait déjà commis l'irréparable. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser. Donc je disais qu'il y a donc 16 effets de la drogue au niveau du cerveau. Vous avez une modification des perceptions, donc pour les hallucinations visuelles, les couleurs vous semblent plus vives, les sons plus intenses, vous avez une altération des émotions, on peut vous trouver en train de rigoler tout seul, ou bien d'être tout triste, d'être angoissé, d'être agressif verbalement, et en train de délirer. On peut avoir des difficultés de concentration, donc quelqu'un qui vient de fumer ou bien qui en manque, n'arrive qu'à se concentrer, plus parler, il est absent, il dit des choses, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc vous avez de la confusion, des problèmes de concentration, des inhibitions, les personnes, au lieu de peut-être être habillées, ne vont pas se rappeler, vont se déshabiller en vous. Voilà, donc il y a ces manifestations-là qui peuvent vous faire penser que la personne n'a pas peut-être un problème psychiatrique pur, mais a peut-être un problème de dépendance qui fait qu'il n'est plus en mesure de contrôler les choses qu'il est en train de faire. Et bien sûr, quand on agit sur le cerveau, on sait bien qu'on a des cellules psychiatriques. Quand vous allez en psychiatrie, vous allez souvent dans l'histoire des patients, ils vous disent ben, « moi je fumais, je me droguais, avec de la cocaïne, je buvais 10 bières par jour, je prenais du whisky. » Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même une consommation qui après donne des troubles psychiatriques. Après, des troubles d'équilibre. Les personnes tombent, il y a une perte d'appétit parce que quand la personne boit, par exemple, ou se drogue, elle est dans un état où elle ne mange plus. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller dans ces substances-là qui leur donnent, qui va donner du plaisir. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un organe qui n'est pas touché par la drogue. J'ai parlé du cerveau avec les atrophies. Vous pouvez regarder le cœur, par exemple. Le cœur, vous avez des problèmes d'arythmie cardiaque. Vous avez, par exemple, une consommation excessive, peut-être de cocaïne. Mais le cœur s'arrête. Les personnes ont fait classiquement l'appel à faire une overdose. Donc, il y a eu tellement de consommation que le cœur n'a pas supporté et le cœur s'arrête. Donc, ça, c'est une overdose. Donc, ça. Ça arrive surtout avec les drogues de synthèse, avec les mélanges qui sont faits avec les drogues qui sont injectables. Vous avez le foie, comme je disais, qui est un peu comme l'éponge du corps, qui va être abîmé par toutes les substances qu'on va prendre. le corps, le foie va gonfler. Et quand le foie gonfle ou bien devient atrophié, ça veut dire qu'il perd sa capacité, ben, ça fait que ben, on perd ce que le foie aide aussi à faire. Parce que le foie, il ne fait pas seulement d'éponge, mais aussi fait plein de choses. Vous allez au niveau du poumon, il suffit de voir les tabagistes, les ceux qui fument, que ce soit cigarette, que ce soit nanguilet, la chicha, ces choses-là, ou le cannabis, ce que vous voulez. Donc ça abîme le poumon. Donc vous pouvez avoir des infections du poumon, vous pouvez avoir des cancers du poumon, vous pouvez avoir des bronchites à répétition. Voilà. Donc les reins, pareil, vous avez des dégâts qui sont liés aux substances qu'on utilise. Vous avez le pancréas, pareil. Donc le pancréas aussi en ressent, surtout pour les choses comme l'alcool, la vessie, pareil. Et quand vous pensez à une réduction de fertilité chez les personnes qui ont conçu. Il y a des toxicités comme sainte sur le fœtus, elles sont en train de consommer. Donc, des fois, certains disent même qui ont consommé peut-être de la drogue, quand le bébé sort, lui, il est habitué à avoir cette quantité de stupéfiants dans le corps, qui va faire que lui, à sa sortie, ben, il va peut-être rechercher cette substance. Donc, des fois, c'est dans des familles, on se rend compte que la maman se droguait, mais les enfants par derrière se droguent aussi. Pas seulement parce qu'ils ont vu les parents le faire, mais aussi parce qu'on dit que dans le ventre, il y a quelque chose qui s'est passé avec cette connexion-là, avec les stupéfiants. Donc, pour nos enfants, vous avez donc, un enfant peut être drogué, prendre, fumer avant d'aller à l'école, mais il perd la concentration, le rendement scolaire n'est plus bien, il y a une perte de progression scolaire, il sera absent à l'école parce qu'au lieu d'aller en classe, il va peut-être aller chez son dealer. Vous pouvez voir qu'il y a des crises d'angoisse, de l'agressivité, et ces enfants, peut-être, ceux qui s'isolent socialement et au niveau aussi familial. Mais ça regarde tout le monde. On peut dire problème de concentration au travail, problème de rendement au travail. Et comme c'était un atelier parent-enfant, j'ai voulu quand même souligner que quand un parent se rend compte que son enfant a un comportement qui est inhabituel, c'est toujours très difficile de faire un diagnostic. Parce que pour faire un diagnostic, il faudrait trouver la personne en train de consommer à ce moment-là. Il y a aussi des tests urinaires qu'on peut faire, ça existe aussi. Il y a des tests urinaires qui sont très rapides que vous pouvez faire, et puis que vous pouvez acheter même sur Internet, vous les commandez, et vous faites un test urinaire, mais bon, il faut quand même avoir aussi l'échantillon de votre enfant pour avoir. Il n'y a pas tous les toxiques, mais il y a une bonne partie quand même de drogues qui peuvent être testées au niveau urinaire, et ça vous permet aussi de faire un diagnostic. Mais c'est sûr qu'il faut le dialogue, il faut essayer d'interagir. Des fois, c'est pas facile parce qu'on se braque, il y a une agressivité. Il faut peut-être interroger les copains à l'école. Il faut peut-être aller à l'école, voir qu'est-ce qui se passe, parler un peu aux enseignants pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Et des fois, après, on peut se rendre compte qu'en effet, parce qu'un camarade fumait a dit viens fumer, puis quelqu'un commence comme ça. Et c'est pour ça que la prévention est très important. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a certains droits qu'on utilise par voie injectable. Donc, les personnes se partagent la seringue et donc ça fait qu'il y a le VIH, les hépatites. Comme je disais, il y a des malformations du fœtus. Et au niveau économique, il faut, comme je disais tout à l'heure, un budget pour acheter les drogues. Donc, ça veut dire que votre enfant, vous lui donnez l'argent pour aller acheter des beignets, et cet argent va plutôt servir à s'acheter autre chose et il ne va plus manger. Voilà. Donc, pour conclure, en tout cas, moi je voudrais donc dire qu'il n'y a pas d'organe qui n'est pas touché par les drogues, avec des complications plus ou moins sévères en fonction de la durée d'utilisation, du type de drogue qu'on utilise. Il faut savoir que même l'alcool et le tabac sont considérés comme des drogues licites pour certains pays, même l'alcool c'est interdit, donc c'est illicite. Donc, le meilleur traitement, c'est la prévention. Je crois que notre soeur Calice l'a dit, c'est la prévention. Ça veut dire qu'il faut éviter qu'on commence. Parce que si on a commencé, on risque de créer ce lien qui va faire que la personne va être addicte à cette substance-là. Et maintenant, pour casser cette connexion, il faudra utiliser des médicaments ou bien des parcours de soins, comme ces centres donc. Notre soeur Christelle a parlé tout à l'heure, qui existe un peu partout dans le monde, où on va vous prendre de votre milieu habituel et vous allez rester là habituellement ces 3 semaines, des fois ici on fait 3 mois des fois plus dans certains centres qui prennent plus pour que la personne puisse couper un peu de son habitude et d'aller trouver de nouveaux stimuli qui vont faire que cette addiction va être coupée. Donc, il faut continuer à communiquer, à organiser des séances de discussion dans les établissements scolaires pour que dès le jeune âge, nous apprenons à identifier et à parler des addictions. Et il faudra s'appuyer sur le corps médical, paramédical, psychologue et autres hypnothérapeutes et addictologues et les associations qui aident les patients à sortir de leur addiction. Et il faut traiter les complications avant que celles-ci ne deviennent irréversibles. Je vous remercie pour l'attention. Je crois qu'il y a Calix qui avait levé la main de l'heure.
Oui, on peut commencer à prendre Calix et ensuite on prendra un autre participant.